BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Et soyez tous les bienvenus, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de Tout pour investir, TPI sur BFM Business en direct à la radio, à la télé, sur le web. Vous pouvez retrouver toutes nos chroniques en podcast et en replay. Alors, beaucoup de pétrole à la une de l'actualité. À noter que ça a quand même bien baissé sur les cours en direct. Hein. Et encore, $104.55 pour le Brent de Mer du Nord. Mais on descend beaucoup plus du côté du brut léger américain, du côté des $95. Oui, Donald Trump signale quand même de grands progrès dans les discussions avec l'Iran. Blocage du détroit d'Hormuz, bloquera pas. Bon, on est encore un petit peu dans l'incertitude. Mais à noter que ça libère quand même de l'énergie sur les marchés actions. On a une forte réaction ce matin sur les marchés européens avec une belle hausse hein, pour le CAC 40, plus 2,56. Hein, on remonte à 8268 points. Il y a un certain optimisme qui revient, même si c'est encore l'incertitude qui domine. Hein. Est-ce qu'on n'est pas désormais rentré dans le dur avec une prime de risque qui s'installe vraiment sur le long terme du côté du pétrole, qui recoupe un petit peu les scénarios vraiment inquiétants qu'on avait en tout début de conflit? Est-ce que c'est pas en train de poser problème? En tout cas, on va déchiffrer tout ça avec Géraldine Métifeux d'Alter Egal et Olivier Le Chevalier de DeftEdge. Arbitrage sur les marchés avec Antoine Fraisse-Soulier d'Itoro aussi. On va regarder parce que vraiment ça réagit très fort ce matin. Action, ça va mieux, mais pétrole. Et puis surtout les taux. Hein. Les taux. Alors ça s'est bien calmé depuis quelques minutes justement avec ces propos de Donald Trump au matin. On était à 3,63 sur la dette française 10 ans. On était à 3,7 hein, hier en clôture. On est repassé sous les 3% pour la dette allemande 10 ans et 4,35 pour la dette américaine. Donc ça se détend aussi, mais il va falloir être très vigilant parce que le coup de chaud hein, sur les taux et l'échange en ce moment, il vient peut-être du Japon et c'était peut-être pas forcément attendu. Et on va analyser tout ça hein, dans le placement à suivre avec Benoît Fernandez Rio tout à l'heure. Où en est-on du crowdfunding en France? Petit examen d'un cas emblématique tout à l'heure et puis l'occasion de faire un petit tour d'horizon justement de cette technique de financement dont on parle plus trop en ce moment dans le grand public. On va voir ça et les opportunités éventuelles hein, avec Wendy Souvanarat et Alexandre Leng de Carré Partners qui nous rejoindront en fin d'émission. Enfin, contrôle fiscal. Eh oui, on est en pleine période de déclaration. On vous prépare une spéciale hein, à ce sujet. On vous tiendra au courant dans quelques jours. Mais comment gérer cette problématique du contrôle fiscal hein, qui peut parfois vous occasionner des sueurs froides? On sera avec Olivier Jeanneret de Duroc Partners dans la boîte à outils. Tout à l'heure, toutes vos questions, vous pouvez nous les poser par mail direct à bfmbusiness.fr. Vous nous envoyez un SMS au 73216, mot-clé business suivi de votre question, vous avez l'habitude. Et puis sinon, vous me posez directement vos questions sur Twitter ou LinkedIn. Le reste de l'actualité du jour. Donc, le Project Freedom est déjà suspendu. C'est l'opération américaine qui avait été lancée en début de semaine pour faire passer les bateaux dans le détroit d'Hormuz. Donald Trump annonce sa mise sur pause comme un gage de temps de voir s'il y a un accord peut-être finalisé avec l'Iran. Il assure d'ailleurs qu'il y a de grands progrès donc dans les négociations, de quoi détendre les cours du brut, hein, on vient de le voir. Mais en ce moment, on est juste sur la fourchette basse d'évolution. Il faudrait que ça consolide un petit peu plus pour que les marchés soient pleinement rassurés. Les prix du pétrole qui affectent en plus la publication trimestrielle de Lufthansa ce matin. La compagnie aérienne a quand même réduit sa perte sur un an, portée par une demande robuste, hein, notamment du côté de l'Asie et de l'Afrique. Et sur le front du kérosène, Lufthansa se montre rassurante et dit n'anticiper aucune restriction concernant l'approvisionnement pour le moment. En Allemagne aussi, publication dans le rouge pour BMW, dont le bénéfice chute de 23% au premier trimestre, avec notamment l'impact négatif des droits de douane américains, qui ont réduit sa marge d'1,25 point de pourcentage. Dans le secteur auto toujours, le groupe Nissan va se séparer de 10% de ses effectifs en Europe, 900 postes répartis entre Barcelone et Sunderland au Royaume-Uni. En France, un investissement record d'Amazon, 15 milliards d'euros sur les trois prochaines années. Le groupe va s'en servir pour construire de nouveaux sites logistiques, développer des activités de cloud. 7000 créations de postes en CDI sont prévues dans les 4 nouveaux centres de distribution qui vont ouvrir. Enfin, on en sait peut-être un peu plus sur la succession à la Banque de France. Emmanuel Macron a proposé le nom d'Emmanuel Moulin, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, pour succéder à François Villeroy de Galhau, qui quitte son poste à la fin du mois. Feu vert des parlementaires qui est maintenant nécessaire. Allez, tout de suite, le tableau de bord de vos marchés.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Les marchés qui mettent une petite pièce quand même sur une baisse des tensions hein, géopolitiques. On a un vrai gros appel d'air là depuis une grosse demi-heure. D'ailleurs, ça s'est accéléré. Plus 2,4% pour le CAC 40 à 8. On est à 8258 points. L'Eurostock 50 plus 2,2% et plus 2,25 pour le DAX à Francfort. Plus 2,06 pour l'IBEX à Madrid. Du côté de Milan, on fait plus 1,8% et on a une hausse de 2% pour le FTSE à Londres. Ça s'est passé en deux temps. Déjà eu, on a eu une correction des prix du pétrole après donc ces propos plutôt encourageants de Donald Trump concernant l'éventuelle reprise des négociations avec l'Iran, la suspension de l'escorte armée des navires dans le détroit d'Ormuz. Donc ça s'est passé en deux temps. On a eu déjà une forte correction des prix du brut. Donc 103,24 pour le baril de Brent de mer du Nord. On était au-delà des 112 hier en séance. Et le brut léger américain qui descend beaucoup plus du côté des 95 $. Le deuxième étage de la fusée, ça a été les taux d'intérêt. Vous savez, depuis quelques jours, c'est vraiment très, très tendu. On a dépassé des cotes d'alerte à la fois sur le 10 ans et sur les 30 ans. Et là, ça se détend. Et ça se détend assez brusquement. On était à 3,7% pour le 10 ans français en fin de séance hier. On redescend à 3,63. On est vraiment sur la limite des 3 pour la dette à 10 ans allemande. On était même légèrement en dessous il y a quelques secondes. Et 4,35 pour le 10 ans américain, alors qu'on était à 4,4% hier. Donc, un vrai soulagement de la part des marchés. On regarde ce qui se passe du côté du CAC 40. Alors, comme à chaque fois qu'il y a une brusque correction sur les prix du brut, le titre le plus réactif, on a l'habitude maintenant, c'est ArcelorMittal. Et là, on fait le trajet diamétralement opposé entre ArcelorMittal qui reprend quasiment 8% à 53,38 € et Total Energy qui est en baisse marqué moins 3,39%. Cette baisse des prix du brut qui ne fait pas vraiment les affaires non plus de l'ensemble du secteur des parapétroliers. Et ce n'était vraiment pas la bonne journée pour annoncer de mauvaises nouvelles. C'est le cas de Viridien, malheureusement, l'ex-géophysique, la prospection sismique. On a un groupe qui est en souffrance avec la publication de ses trimestriels, plus cette baisse des prix du brut. Titre Viridien qui corrige quand même de 15%. On est à 124,60 €. L'autre secteur qui est évidemment handicapé aujourd'hui avec cette petite baisse de la prime de risque géopolitique, c'est le secteur de la défense. Regardez Exosens qui recule de 2,5% à 63,55 €. Exel Technologies perd 3,7% à 121,20 €. À la hausse, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve donc ArcelorMittal, on en a parlé, mais Alten aussi qui prend 8,3% à 62,15 €. Et Nanobiotics qui prend 8,5% à 31,56 €. Depuis le début de la semaine, le secteur de la santé qui était plutôt orienté à la baisse en bourse, puis qui là remonte un petit peu avec cet appel d'air et ce retour de l'appétit pour le risque. Un mot de l'or qui est bien remonté aussi, avec 4706 points au compteur pour l'once de métal fin. Tout de suite, on déchiffre l'actualité.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Avec notre déchiffreur de choc, Géraldine Métifeux, Alter Egal. Bonjour Géraldine.
Bonjour Antoine.
Et Olivier Le Chevalier d'Eftedge, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bah, c'était vraiment le jour où il fallait vous recevoir. Votre métier, c'est quand même de hedger. C'est le secteur de l'énergie qui est quand même sous votre scope au quotidien. Et puis là, effectivement, bon, une belle accalmie, une belle baisse de tension sur les cours. 103,58 $ pour le baril de Brent de mer du Nord, 95 $ pour le baril de brut léger américain. Alors, on peut se sentir soulagé, effectivement. Maintenant, encore une fois, on le dit depuis le début du conflit, c'est pas tellement ces pics brusques, c'est le fait qu'on tienne ces niveaux-là sur une très longue période. Et est-ce qu'on n'est pas finalement rentré dans le dur là maintenant ?
Bah, effectivement, là, ça fait un moment que ça dure. C'est vrai que ça, à force de venir sur l'émission, on a l'air de dire, bah, tiens, ça progresse, ça monte. Est-ce que ça va redescendre ? En fait, on a toujours un peu le même discours maintenant. Dès qu'il y a il y a quand même les effets d'annonce, la durée, et là, c'est vrai que ça commence à être compliqué parce que tout le monde, ça descend vraiment dans toute l'industrie, notamment au niveau de l'énergie. Là, on s'en rend compte de plus en plus. Là, ça vient toucher. On était inquiet sur la partie énergie, engrais, agriculture, toute cette partie-là. Et puis là, aujourd'hui, c'est vrai que vous avez même le kérosène qui en pâtit. C'est-à-dire que pour des entreprises qui n'avaient pas prévu, c'est-à-dire pour eux, ça a été quasiment 50% vraiment d'augmentation.
Ouais.
Et là, on a vu que toutes les compagnies aériennes se lançaient en fait dans l'explication de les prix ont augmenté, donc je vais limiter en fait les vols, je vais en arrêter.
Il y a un nouveau wording à trouver là pour le secteur.
Exactement. Ryanair a dit clairement qu'il n'allait pas se couvrir pendant les 3 prochains mois parce qu'il est mis sur la baisse. Mais c'est vrai qu'aussi, on a annoncé qu'on avait 46 jours, là, c'était l'IAE, l'Agence de l'énergie, qui a dit on n'a plus que 46 jours de stock au niveau mondial, donc ce qui est quand même relativement peu, sachant qu'on regarde toutes les industries, notamment américaines, qui nous ralentent. Ah non ? Donc effectivement, ça met une pression sur pas mal d'entreprises. Mmh. Là, je le vois, parce qu'encore cette semaine, on a été interrogé, notamment sur le prix de l'énergie, en disant, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je vais en pâtir encore plus prochainement. Et donc, vous le retrouvez chez les industriels qui vont faire de l'agroalimentaire, qui disent, bon, ben voilà, j'ai des prix qui augmentent, j'ai mon transport qui augmente. Et après, vous avez d'autres compagnies, entreprises, qui sont liées quand même au marché de l'aérien. Donc, je pense à toutes les activités qui peuvent être et se trouver dans les aéroports. Donc, qui dit moins de vols, dit aussi moins de recettes, moins de revenus. Donc, ça, c'était compliqué aussi à prévoir pour eux. Donc là, l'aérien est vraiment un peu dans la difficulté. Mmh.
Alors, on a eu un premier élément de réponse là, avec Lufthansa, qui s'est montré plutôt rassurant. Maintenant, bon, faut pas être dupe.
Il y a surtout une grosse différence entre ceux qui ont beaucoup de, enfin ceux qui peuvent se permettre d'être sur des prix plus élevés, Ryanair ou tout ce qui va être low cost, ne peut pas avoir moins de marge.
Ah non,
c'est spécialiste, mais qui ne peut pas avoir moins de marge de manœuvre qu'un Air France, alors Lufthansa ou des compagnies plus high. C'est-à-dire que globalement, moi, je partirais quand même en Corse avec un prix plus élevé. Vous voyez, de toute façon, j'ai pas tellement d'options. Mais un phénomène Covid, au fond, on sera moins nombreux à voyager, mais peut-être ça ne changera pas tant que ça. Le rendement, en tout cas conjoncturellement, si ça devait durer, je ne sais pas. Mais
après, ils n'ont pas tout à fait la même structure de coûts en interne, d'autres qui sont un peu plus sur des niveaux plus élevés, il y a plus de coûts. Mais là aussi, c'est vrai que vous avez l'annonce, ou avant, quand vous êtes sur le marché du pétrole, l'offre et la demande s'ajustent à plus ou moins quelques milliers de barils, des millions, jusqu'à un milliard de barils. Là, aujourd'hui, on a quand même 200 millions qui manquent de jour en jour à partir du mois. Donc, ça commence à faire beaucoup. C'est deux fois plus que d'habitude sur le manque, en fait, en termes d'énergie, etc. Donc,
ça me rend optimiste, en tout cas. Ça me rend optimiste, mais je me dis que forcément, ça ne peut pas durer.
Alors, moi, je ne dis pas que ça ne peut pas durer, je suis d'accord avec vous, mais le point, c'est quand on vous demande un peu à court terme, comment je fais, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je dois couvrir ou pas, la difficulté, c'est que ces sociétés-là ont leur chiffre d'affaires en jeu, il y avait des effets d'annonce, elles se veulent aussi rassurantes, et en fait, elles sont liées aussi avec leurs normes internes et comptabilités.
Bien sûr,
vrai qu'il y a différents...
C'est pas du tout la même position, la vôtre, plus long terme, et la vôtre qui forcément est plus tactique, c'est pas du tout la même
vision. C'est un peu plus difficile.
Mais en tout cas, je suis assez convaincue, effectivement, que pour le coup, et je m'avance, que je pense que le conflit aura une fin. Heureuse, malheureuse, mais elle aura une fin pour plusieurs raisons, et notamment je pense que les fait que les Émirats aient annoncé la sortie de l'OPEP par exemple, alors soit ils ont annoncé tout ça, ça veut dire déjà que le plafonnement du nombre de barils ce ne sera pas leur sujet, est-ce que c'est ça leur idée,
clairement.
Je ne connais pas les ravages que ça aura sur l'économie à bref échéance, j'ai du mal à les pricer, mais j'ai le sentiment en tout cas que tout le monde essaie de se tourner sur le jour d'après quand même,
Géraldine...
il n'y a pas tellement de PFO sur le truc, pardon.
Quand on se concentre un petit peu sur le mieux là qu'il y a sur les marchés depuis hier, donc les deux étages de la fusée, déjà ça corrige sur les prix du brut, et puis ça corrige sur les taux. Est-ce que Donald Trump n'est pas en train de se faire rattraper par le collet, par le 30 ans américain qui a dépassé les 5%, par...
Mais même le 2 ans, regardez, l'augmentation des taux de 2 ans est plus rapide que le 10 ans, enfin, les perspectives s'assombrissent sensiblement aux États-Unis, et je trouve qu'entre la musique de la tech, où tout va bien, c'est un peu...
Et pour le coup,
oui, le monde de la tech, c'est tout va bien, et puis il y a le monde dans lequel on vit tous, que vous décriviez, que nos clients ressentent, et il y a quand même un décalage assez considérable, et je pense que les taux nous ramènent plus à la réalité et aux craintes que murmure la bourse côté action. Donc, ça dépend encore des secteurs, hein, parce que on peut pas dire que le luxe nous amène vraiment dans des sourires absolus. Et on voit une différence d'ailleurs entre le CAC, par exemple, qui est négatif depuis le début de l'année, on perd 2% en 15 jours, en gros, là où le Nasdaq est repassé positif à genre 7% hier, à la clôture d'hier. Donc, il y a une énorme différence entre les deux. Et je pense que Trump, il va être effectif. Enfin, Trump, je sais pas ce qu'il peut rattraper Donald Trump en réalité, mais d'ailleurs, je sais pas s'il le sait lui-même. Mais il y a quand même quelques échéances qui sont là.
Les midterms.
Les midterms, c'est encore loin, mais la Chine, c'est tout près, hein. Oui. C'est dans 8 jours, et ça me ferait assez sourire, non pas que je sois une anti-Trumpiste de base comme tous les Européens, mais quand même que soit la Chine qui fasse l'arbitre entre l'Iran et les États-Unis.
En même temps, ils sont un peu arbitres sur à peu près tout,
sur 30 à 40
mètres.
Je pense qu'ils vont, ça va, on verra effectivement, mais je pense que Trump, il va être obligé, parce que le coût de sa dette, on parle souvent de la coût de la dette des Européens, et notamment en particulier de la France, qu'on aime bien défoncer la France en général, mais le coût de la dette US, il commence à être sévèrement attaqué, les gars.
Oui, non, mais ça va. On est sur des sommes qui feraient reculer n'importe qui.
Puis, c'est pas comme si sa dette s'était tellement réduite récemment.
Donc, oui, voilà. En plus, c'est ça le problème, et c'est ça qui provoque une mécanique. On y reviendra d'ailleurs avec Benoît Fernandez-Rioux dans le placement à suivre, qui provoque une sorte d'enchaînement un petit peu bizarre avec le Japon qui est obligé en catastrophe de gérer l'appréciation du yen, donc qui est obligé de soutenir sa monnaie. Ça fait baisser le dollar. Et donc du coup on a un enchaînement qui joue sur les taux, enfin, tout ça est très compliqué, et cette espèce de boîte noire, c'est peut-être ça aussi qui fait reculer Trump.
Je ne sais pas parce que d'un jour à l'autre on a l'impression qu'il recule et puis il fait un autre pas en taco contre taco,
etc.
Exactement, et donc effectivement, mais le coût de la dette, je pense que beaucoup d'investisseurs comptent quand même sur l'arrivée de Kevin Warsh pour un peu resserrer un peu les boulons de toute cette économie et de contrôler un peu davantage Trump. Et c'est vrai que pour la banque quand même du Japon, c'est quand même un métier de dette chez eux. Donc, ils ont toujours, c'est toujours de la dette japonaise qui est toujours en vente et en achat. Et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais augmenté leur taux, parce que du coup, sinon, ça allait faire exploser. Donc, effectivement, eux, ils sont très bons sur le marché de la dette. Donc, on a vraiment de la difficulté avec eux, où aussi le Japon commence à être pris en étau avec ses coûts de l'énergie et puis le coût, justement, de sa dette. Donc, une appréciation, qui est peut-être que temporaire, parce que là, j'avais pas le cours du yen en tête, mais on sait qu'on vient quand même de niveau qui était de 120, 130 à une certaine période, et que là on avait vraiment crevé des plafonds.
Mais on est à 156 en ce moment.
Oui, donc vous devez peut-être avoir du 160 à terme sur un an éventuellement avec le différentiel. Bon, en tout cas, voilà, du coup, en tout cas, c'est un affaiblissement, mais c'est surtout un marché de dette pour la BOJ.
Il y a un marché qui se retourne vers le marché japonais, qui se retourne vers une électricité un peu plus nucléaire. Enfin, peut-être qu'on a aussi l'électrification, si vous voulez, la forme d'électrification. Alors, pour l'instant, il y a effectivement aux États-Unis, ils ne sont pas encore tellement dans cette thématique-là, mais c'est vrai que le monde entier qui régulièrement est rappelé par la patrouille pour dire qu'ils dépendent de tous les autres, peut-être qu'ils vont enfin prendre la mesure de changer un certain nombre d'infrastructures en matière.
Oui, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'ils lident quand même le marché. Les États-Unis.
On verra.
On l'a bien vu depuis l'Ukraine, là. Maintenant, ils sont positionnés où on joue plus le jeu de l'Europe, on joue plus de la défense commune. Chacun joue un peu sa partition.
On enlève le lit.
Je trouve qu'on a du mal, nous, en Europe, à trouver notre place. Et du coup, on suit bon an mal an et on essaie de réguler. On l'a fait pour l'IA, on met beaucoup plus de régulation, mais beaucoup plus de complexité, je dirais, en termes de normes, globalement. Et lui, il a plus un effet un peu plus métier, business, et donc... j'y vais, et puis parfois, je suis d'accord, peut-être qu'il y a des réflexions qui devraient être un peu plus profondes, notamment comment on fait la guerre, etc. Est-ce que ça devrait durer, comme il le disait, 2-3 semaines, comme on disait avant,
et maintenant c'est compliqué. Une fois, son échelle de temps, c'est 24 heures, une semaine, deux semaines, et c'est rarement la réalité.
C'est levé 9 heures, j'allume Truth Social, et voilà, et roule Pedro, comme on dit. Au milieu de tout ça, et on en a parlé un tout petit peu, il y a l'arbitre de long terme qui regarde tout ça très calmement, c'est la Chine. Vous parliez justement de ça aussi, un rôle sur les métaux.
Oui.
Il s'est passé quelque chose sur l'argent qui vous intéresse. C'est vrai que ce soit l'or et l'argent, on a pas mal reculé dans le sillage des marchés actions, parce qu'on a commencé à prendre ça comme des actifs liquides à jouer. De manière un petit peu contre-intuitive. Mais sur l'argent, il se passe quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, en fait, l'argent, c'est vrai que c'est un double jeu. C'est-à-dire qu'il est à la fois refuge, parce qu'il est un peu dans le sillon de l'or, et puis vous l'avez aussi du côté industriel. Donc, c'est vrai qu'à un moment, il était monté à 120 dollars l'once, et aujourd'hui, en fait...
77.
Et là, on est à 77. Donc, en gros, on a vu qu'il y avait une prise de profit, mais donc, qu'est-ce qui avait freiné les investisseurs à l'époque quand on était à 121, quand il y a eu des appels de marge qui sont déclenchés? Et du coup, payer des appels de marge quand vous êtes juste un investisseur, ça devenait compliqué. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont retirés, donc, et qui a fait chuter vraiment ce pic de l'once d'argent. Et donc là, elle se reprend. Donc, effectivement, elle devient un peu plus valeur refuge. Et puis aussi, il y a un effet pour l'énergie. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le Brent, le pétrole, et là, vous avez quand même un regain pour les énergies vertes. pas pour sauver le climat, mais plus pour avoir de l'indépendance énergétique désormais.
C'est ça,
et donc, c'est ce qui fait peut-être remonter aussi le prix.
Mais oui.
Et donc, juste pour ça, ça peut être une fenêtre aussi pour les investisseurs s'ils veulent investir éventuellement sur ce stock. De toute façon, il y a toujours plus de contrats en circulation sur les investissements que de disponibilité de cette matière. Donc, au moins, quand on est passé de 120 à 90, 70 la dernière fois, en fait, c'est vrai que les investisseurs misaient sur le fait qu'on n'allait pas livrer l'argent en même temps. Donc, voilà. Donc, c'était un peu ces dynamiques-là qui se retient. Bon, en tout cas, si...
Ouais, bah oui.
Métier, une double vie pour l'argent si vous voulez investir.
Ouais, non, c'est clair que c'est intéressant.
Alors, l'or reprend aussi d'ailleurs.
Oui,
leur
refuge, 4700, ouais, effectivement. Et Géraldine, au milieu de tout ça, l'état d'esprit de l'investisseur particulier. On dit. Ils se succèdent tous à cette table pour dire finalement, ne prendre aucune décision en ce moment, c'est peut-être le meilleur trade. Est-ce que c'est pas finalement le truc qu'il faut faire? Toucher à rien. Surtout pas de nervosité, surtout pas de knee-jerk, comme on dit aux États-Unis, pas réagir de manière impulsive et regarder ça tranquillement, se dire que pour l'instant le marché est résilient et qu'il n'y a rien à changer. Est-ce que ce n'est pas la méthode du moment ?
En fait, je vais même dire que c'est plutôt la méthode en général, c'est-à-dire que dans nos métiers à nous qui sont sur des métiers long terme, on peut avoir des moments tactiques, chercher quelque chose qui va modifier, on espère améliorer la rentabilité globale des propositions de placement qu'on va faire pour nos clients, mais l'idée c'est vraiment de s'inscrire dans le temps. Donc oui, le tenir une stratégie, expliquer pourquoi, etc., c'est fondamental, absolument. Aujourd'hui, il y a certains clients, il y a 8-9 avril, c'est quand Trump a annoncé que c'était fini, mais que c'était pas fini, il y a presque un mois. Il y a des clients qui m'ont
c'est
dit
fini, mais en fait non.
Ouais, c'est ce qu'on dit tout le temps. Enfin, c'est vrai qu'il est fatigant quand même. Hein. Fou, hein. Et donc c'est vrai que certains clients me disent que c'est le moment de réinvestir. Alors, je ne pense pas qu'on soit à la fin. Pas de ce conflit, c'est même pas mon sujet. C'est-à-dire que je considère
de
toujours
la
que la nervosité des marchés actions, la tension sur les marchés de taux, me laisse pas à penser qu'on est dans un moment où tout va s'éclaircir à façon
maison d'après.
C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt l'impression que les indicateurs nous disent attention, les gars, on est sur une ligne de crête. Quoi. Donc, après, je ne dis pas que nos gros agentiers ne vont pas parfaitement tout bien gérer.
Oui.
Mais le client qui s'est dit bon, bah, moi, je ne bouge pas, je reste investi très fortement en action en fin d'année dernière, quand ses conseils lui ont dit faites attention, peut-être le moment de prendre des bénéfices, qu'il a dit non, moi je préfère rester là. Clairement, le mec ne bouge plus, parce que ça sert à rien, parce que selon sur quoi il a investi l'année dernière, ça ne marche pas forcément. Et de toute façon, celui qui est investi sera forcément investi au moment où ça rebondit. Donc, charge à nous d'avoir pris les.
Non, mais c'est vrai.
Mais bon,
la police n'aura pas mieux dit, la vérité, c'est ça. Donc, maintenant que vous êtes embarqué, il faut rester. Et celui qui est débarqué, c'est pas le moment de revenir. Parce que, on n'a pas de fenêtre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bear market, on n'a pas de marché aussi, on est dans un truc qui change, à 15 jours près, vous avez des énormes différences. Vous parliez du cours du pétrole et WTI et Brent, 15 jours. Là, on a le sentiment, si vous voulez, que ça a monté, alors que ça a baissé. Si vous regardez juste les cours il y a 15 jours. Donc, ça va un peu trop vite pour un investisseur particulier sur des véhicules d'investissement long terme, type EPC, etc. Je pense qu'il faut décider d'une stratégie, rester sur sa stratégie, et de temps en temps, et ceux qui peuvent, par exemple, je pense à des investisseurs particuliers qui ont des revenus confortables et qui ne les consomment pas mensuellement. Honnêtement, je pense que mettre en place des versements programmés, que ce soit sur vos comptes titres, sur vos contrats d'assurance, contrats de capi, etc., ou PEA, et d'acheter régulièrement de façon un peu mécanique, en enlevant le côté comportemental ou stressé, c'est sans doute un des bons moments aujourd'hui, parce que cette volatilité vous profitera à un moment ou à un autre.
Olivier,
je sais pas pourquoi.
Il nous reste 20 secondes, là.
Non, mais c'est difficile, c'est vrai. Là, j'aime bien le côté comportemental.
Ouais.
Non, mais c'est vrai que moi, si j'avais, il y a peut-être du BP, du Shell, peut-être en ce moment, parce que c'est vrai que c'est eux qui prennent un peu les plus gros profits, donc je pense que ça peut être sympa. Puis j'ai vu qu'il y avait des champs gaziers qui se trouveraient en Norvège, donc peut-être ne pas éviter, mais ils reviennent en tout cas un peu sur le devant de la scène. Je dirais qu'il y a toujours l'énergie, hein, la défense quand même dans quelqu'un on peut investir, et puis je sais pas la santé qui reste quand même toujours, je pense, bon driver.
Santé, mais pour l'instant, ça marche pas très bien. Je suis d'accord avec vous. La CT, normalement, ça devrait fonctionner un jour. Promets, ça fonctionnera.
Ouais, c'est vrai que depuis le début de la semaine, c'est un petit peu compliqué.
Bah même le début de l'année.
Oui, de manière un peu plus large. Merci beaucoup, Olivier Le Chevalier d'Eftage et Géraldine Métifeux. Alter Egal, justement, on va parler des arbitrages de marché tout de suite avec Antoine Fraissoulier d'Itoro.
Tout pour investir. Arbitrage.
Antoine Fraissoulier, on vous rejoint tout de suite. Bon, un bel appel d'air sur les marchés. Plus 2,32 pour le CAC 40 qui d'un coup libère du potentiel. On est à 8249 points. Tiens, pour la petite histoire, le VIX, l'indice de la volatilité américain là sur les futurs, est en train de rejoindre quasiment ses plus bas de l'année. On tombe à 16 points à un moment où bon, il n'était pas vraiment question de guerre. Bon, c'est encore un pic d'optimisme des marchés dont il faut se féliciter, mais dont il faut se méfier aussi, sans doute.
Ah ben oui, effectivement. Là, c'est vrai qu'on a une poussée, hein, d'ailleurs, depuis une demi-heure. Hein, ouais. On a vu que le CAC 40 là, a pris 1% là, en quelques minutes. Alors, c'est suite à l'annonce d'une avancée assez concrète quand même, hein, entre un projet de paix entre l'Iran et les États-Unis. Alors c'est vrai que c'est une annonce par Axios, hein, donc qui juge que les discussions n'ont jamais été aussi avancées depuis le début du conflit. Faut quand même prendre des pincettes parce que plusieurs responsables américains restent sceptiques, hein, puisque l'administration Trump s'est déjà montrée optimiste lors de précédentes phases de négociations sans parvenir à un résultat. Donc, attention toutefois, mais ça pourrait quand même déboucher sur une désescalade. Alors, les investisseurs y croient, très clairement, puisque, comme on l'a dit, le CAC 40 progresse de 2,5%, il revient à 8250 points. Un niveau qui avait plus été atteint depuis le 22 avril. Donc ça, c'est très très bonne chose. Côté valeur, on voit toutes les valeurs qui avaient été un petit peu délaissées depuis le début du conflit, type Safran qui progresse de 6,5%, on a Stellantis aussi qui reprend 6%, les bancaires aussi bien orientés et le luxe aussi avec Kering qui a plus 5 et LVMH à plus 4%. Donc on voit que finalement c'est un appel d'air pour toutes les valeurs qui ont été délaissées depuis le début du conflit. Et c'est plutôt positif. Maintenant, il faut quand même avoir des pincettes sur cette annonce.
Ouais, faire bien attention. Alors, c'est vrai que ça s'est passé en deux temps. Premièrement, il y a eu une correction marquée sur les prix du pétrole. Et ensuite, et c'était le deuxième étage de la fusée, comme je le dis depuis le début de l'émission, c'est les taux qui se sont mis à corriger. Et finalement, est-ce que c'était pas ça le signal déclencheur, dans le sens où voilà, on arrivait à des points critiques sur les 30 ans, sur les 10 ans, même sur les 2 ans, où il y avait des points de tension qui marquaient des gros déséquilibres à venir, avec notamment ce qui s'est passé autour du yen, on en reparlera tout à l'heure. Mais est-ce que ce n'était pas finalement le véritable signal décisif que ça commence à corriger sur les taux pour pouvoir envoyer la sauce, j'allais dire, sur les marchés actions?
Non, mais c'est sûr que les taux, c'était le point de stress, je dirais, majeur avec les prix du pétrole, effectivement. Mais là, on voit qu'il y a une détente très nette sur l'ensemble de la courbe des taux. Le pétrole baisse de 7%, donc on repasse sous les 100 dollars. Donc ça, ce sont des signaux positifs. Après, vous parlez de sauce sur les indices, mais c'est vrai que quand on regarde les Wall Street, ça fait un petit moment que la fusée est lancée. Je regardais là le Nasdaq, hein, c'est quand même assez impressionnant puisqu'il progresse de quasiment donc 23%, sans considérer la hausse d'aujourd'hui. Donc en préouverture d'ailleurs l'indice est à plus 1, encore plus 1,17 dans la réouverture. Donc c'est considérable et c'est essentiellement dû finalement à une concentration de valeur liée à l'intelligence artificielle évidemment et aux puces. Quand on voit la meilleure performance du Nasdaq, c'est Intel, qui l'eut cru, hein, il y a encore quelques mois, mais Intel progresse de 200% depuis le début de l'année. Voilà, donc on voit aussi Micron Technologies qui prend 125%. On a AMD aussi qui a publié cette nuit, qui prend 17% en préouverture et qui va être à peu près à 80% depuis le début de l'année. Donc on voit que ces valeurs liées aux puces tire l'indice. D'ailleurs, l'ETF Stocks, l'ETF Stocks, c'est-à-dire c'est l'indice des semi-conducteurs, progresse de 60% depuis le 1er janvier. Donc, effectivement, c'est énorme. Maintenant, est-ce qu'on va pas avoir ce phénomène, achat de la rumeur, vente de la nouvelle? Donc, maintenant que potentiellement, toujours à prendre avec des pincettes, mais la guerre va se terminer, eh bien, est-ce que finalement les flux ne vont pas se rediriger vers ce qui était au début de l'année l'Asie ou l'Europe et avoir un dégonflement de ces valeurs techno et notamment des puces qui ont littéralement flambé depuis 2 mois?
Oui, c'est clair qu'il va falloir revoir un petit peu les dynamiques à court terme. Merci beaucoup Antoine Fraissoulier d'Itoro. Donc je vous rappelle, Donald Trump qui dit que des grands progrès ont été faits dans les négociations avec l'Iran. On a même Axios qui nous dit qu'un texte serait prêt, un texte court d'accord cadre, hein, entre les États-Unis et l'Iran pour une cessation des hostilités. En tout cas, le CAC 40, lui, prend 2,28% là en ce moment, 8248 points, détente sur les taux, détente sur le pétrole avec un Brent qui redescend à 102,71$. Restez avec nous, on va sortir un petit peu des turpitudes de marché pour rentrer sur un sujet qui fâche également, mais qu'on va vous aider à gérer comme il faut, la fiscalité et les contrôles fiscaux. Aïe, aïe, aïe. Olivier Jeannoret du Rock Partners dans quelques secondes avec nous, là tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
Alerte, bip, 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 contrôle fiscal. Voilà le genre de truc qu'on n'aime pas. Voilà le genre de truc qu'on n'aime pas, mais qu'on va vous aider à gérer grâce à notre boîte à outils. Olivier Jeannoret du Rock Partners, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, déjà peut-être faire un petit état des lieux de ce que c'est un contrôle fiscal, parce que bon, le mot fait peur à tout le monde. Bon, dans quel état d'esprit il faut se mettre pour bien évaluer ce concept ?
Il faut comprendre que le contrôle fiscal, il est intrinsèque à notre mode de vie en société, puisqu'on est dans un système déclaratif. C'est-à-dire que c'est spontanément qu'on va aller indiquer à l'administration fiscale, à Bercy, les montants de revenus qui doivent être soumis à l'impôt. Donc forcément, comme on est dans un cadre de déclaration qu'on va appeler spontané, il faut qu'il y ait un contre-feu en la matière, et c'est une capacité de contrôle et de vérification a posteriori des déclarations fiscales des contribuables. Et donc, on a ce cheminement qui, naturellement, est assez anxiogène du contrôle fiscal. C'est cette coloscopie fiscale qui peut exister et que l'administration fiscale met en œuvre de façon très régulière. Il faut savoir, là, il y a quelques jours, il y a le rapport annuel. Bercy publie un rapport annuel sur les fruits du contrôle fiscal. Qu'est-ce que ça implique ? Et il y a deux grands chiffres qui en sortent. 17 milliards, ce sont les droits qui ont été notifiés, on y reviendra après sur les modalités, qui ont été notifiés par l'administration fiscale en 2025. 11,5 milliards, c'est les montants qui ont été recouvrés. 11,5 milliards, récupérés, effectivement encaissés. Alors, ce qui est intéressant avec ces deux chiffres, c'est qu'en réalité, ils stagnent plus ou moins par rapport à l'année précédente. Donc la question, c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Est-ce que le fait qu'il y ait autant de droits notifiés et pas plus, alors qu'on imagine toujours qu'il y a un stock de fraude fiscale, personne n'arrive à chiffrer hein, ce stock-là, on est entre 40 milliards et 130 milliards en fonction de qui on écoute. Et donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle que le stock n'évolue pas, ou plutôt une mauvaise nouvelle ? Est-ce que le fait que les droits recouvrés, donc encaissé par Bercy, n'est pas évolué, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Beaucoup semblent dire que ce sont des mauvaises nouvelles. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'on est sur un terrain de bonnes nouvelles. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'évolution des 17 milliards ? Parce que déjà, l'administration fiscale, elle a des moyens humains et matériels qui n'évoluent pas. Donc, c'est quand même difficile de faire plus sans avoir plus de moyens.
Là aussi, les questions de stock.
Voilà, exactement. Ouais. Deuxièmement, l'intelligence artificielle a déjà été intégrée pour des contrôles simples, si on peut dire. C'est à peu près 20% des montants redressés. C'est lié à de la data mining, à l'intelligence artificielle. Mais c'est déjà intégré. Pour les contrôles plus complexes, l'intelligence artificielle n'est pas encore au niveau. Troisième facteur, depuis plusieurs années et même décennies, on est sur un terrain de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.
Bien sûr.
Tout à fait naturellement souhaité par tous. Le législateur l'a pris en considération. Et donc, quelque part, on est dans ce poids entre prévention, comment j'évite la fraude fiscale, et sanction, comment je vais après la contrôler. Et par ailleurs, ces dernières années, on a une augmentation de plus de 44% des recettes fiscales. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ou ce que ça doit vouloir dire ?
Mais que l'État recherche des sous, en premier lieu.
Alors, tout à fait, mais aussi qu'il y a très probablement moins de fraude, à force.
Eh ben voilà.
Tous ces facteurs-là, et c'est là où c'est très positif, il me semble, c'est que certes, on chiffre le contrôle fiscal et les sanctions, mais on ne chiffre pas ce que rapporte la prévention. Et quelque part, ces augmentations de recettes sont aussi liées à cette prévention. Après, il faut voir le fait qu'on n'ait pas plus de recouvrement, ce différentiel de 5,5 milliards.
Oui, parce que j'allais vous dire, c'est quand même, le contrôle fiscal, de manière générale, dans l'inconscient collectif, on se dit, il faut vraiment que je vraiment déconner, entre guillemets, hein, pour qu'il y ait, pour quelques, enfin, sur des sommes substantielles, quand il y a vraiment une différence entre le calcul de l'État et le vôtre, c'est que vraiment, il s'est passé quelque chose.
Alors, exactement. Et d'ailleurs, à l'origine, l'administration fiscale essayait de cibler le contrôle qu'elle pouvait mener en fonction de sa capacité de rentabilité du contrôle. Oui. Petit à petit, et notamment par l'intégration de l'intelligence artificielle, on est au contraire à aller cibler aussi pas que, j'irais, des cas avec une rentabilité importante, mais aussi toutes les erreurs un peu lambda qui se matérialisent facilement et justement qui se rencontrent facilement. Mmh. Et voilà, les erreurs sur les revenus fonciers, sur les déclarations, avec ce qui est automatiquement transmis. Mmh. Toutes ces erreurs-là, aujourd'hui, sont corrigées assez facilement. Et il ne faut pas oublier, c'est que l'administration fiscale, quand elle met en œuvre un contrôle fiscal, elle ne part pas du principe que vous êtes de mauvaise foi, que vous avez voulu frauder, truander l'État. Non, on est quand même dans un climat qui est assez sain, puisqu'il y a plus de la moitié des contrôles fiscaux qui se terminent par une acceptation pure et simple du contribuable, sans presque discussion. Mmh. Le contribuable reconnaît son erreur, et d'ailleurs, en reconnaissant son erreur, et c'est là aussi le différentiel entre les 17 milliards dont on parlait et les 11,5 milliards encaissés, c'est quand on reconnaît son erreur au moment où l'administration vient et nous donne l'addition, on a le droit à quelques réductions en la matière. Donc forcément, ça crée les écarts. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce cheminement du contrôle fiscal, c'est un cheminement qui est long. Il y a d'abord un temps qui est un peu en chambre pour l'administration fiscale. Oui. Elle arrive, elle fait une proposition de rectification. Qui dit proposition, ne dit pas redressement définitif, recouvrement de l'impôt. Non, elle propose des rectifications. L'administration fiscale, elle n'a pas forcément raison. Elle ne voit pas forcément tout et finalement... Mmh. Ce n'est qu'avec la proposition de rectification que le débat contradictoire commence. Mmh. Et moi, je trouve, c'est ça qui est positif dans ce différentiel entre 17 milliards et 11 milliards 5, c'est que l'administration fiscale, elle accepte le débat et elle accepte qu'elle puisse avoir tort. Mais et c'est très important dans un débat sain et serein, c'est d'avoir cette capacité d'écoute de l'administration. Et c'est pour ça que je trouve que cette différence, et qu'elle soit importante comme ça, est aussi une bonne nouvelle. Aussi, ouais. Parce que, justement, c'est cette capacité d'écoute de l'administration fiscale, la capacité qu'elle puisse considérer qu'elle se soit trompée, et on peut la comprendre. La situation de chacun, elle est très unique, très factuelle, et l'administration n'a pas forcément accès à toute la donnée pour pouvoir prendre en considération tout ça. Et dernièrement, il ne faut pas oublier, c'est qu'une transaction, parce qu'on peut transiger avec l'administration
fiscale, tout à fait,
et que l'administration fiscale, il me paraît que ça soit assez pragmatique comme approche, elle considère qu'il faut mieux une transaction correcte plutôt qu'un bon procès, qui coûte de l'argent aussi aux contribuables.
Comme aux États-Unis.
Il ne faut pas oublier.
Voilà, un bon deal pour éviter de longues procédures. Il nous reste, 30 secondes, quelques conseils de base pour éviter les bêtises, justement, et éviter un contrôle fiscal un petit peu inopiné.
Pour éviter les bêtises, on sait que beaucoup de sujets ne sont pas binaires. La loi fiscale, malheureusement, est faite de zones d'ombre. Il ne faut pas hésiter, lorsqu'on n'est pas certain du traitement fiscal d'un revenu, d'un gain, de mentionner ça, c'est ce qu'on appelle la mention express, et donc d'indiquer à l'administration fiscale
directement qu'on a un doute, sur la déclaration.
Directement à la déclaration, c'est la dernière case quelque part avant la signature, en lui disant voilà pourquoi vous avez fait ça.
Je suis pas sûr de mon coup.
Je suis pas sûr. Il faut bien sûr le rédiger avec doigté. L'avantage de ça, c'est que si l'administration est pas d'accord avec vous, vous avez pas de pénalité. La bonne foi, elle est plus qu'assurée parce qu'il n'y a même pas de pénalité. Donc ça, c'est un premier élément où il faut l'avoir en tête. Et deuxième élément, aujourd'hui, on a intégré de plus en plus de transmissions automatiques de données. Quand on va être amené à modifier ces chiffres-là, il faut absolument expliquer pourquoi on a modifié, parce que ça, c'est clairement un des critères premiers de contrôle de l'administration fiscale en la matière.
Et là, forcément, par défaut, on a tous les détails sous les yeux. Merci Olivier Jeanneret du Rock Partners. On vous fera une spéciale sur la déclaration d'impôt. C'est la pleine saison. On vous informera de la tenue de cette spéciale et on invitera nos meilleurs spécialistes pour vraiment vous aider à faire la meilleure déclaration possible et ne rien oublier. Merci d'avoir été avec nous, Olivier Jeanneret. Tout de suite, le placement à suivre.
Tout pour investir, le placement à suivre.
Benoît Fernandez Rioux, spécialiste taux échange. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on le disait, tout ce qui est en train de se passer, la mécanique autour des taux d'intérêt qui ont monté à des niveaux un petit peu alarmants ces derniers jours et qui ont sans doute facilité une attitude un petit peu plus accommodante du côté de l'administration américaine de ces dossiers géopolitiques du moment, on a vu des choses se passer du côté du yen. Pour la Banque du Japon, un moment très compliqué de protection de la devise face notamment au dollar. Est-ce qu'on peut revenir dessus et expliquer un petit peu cette mécanique qui fait que les taux américains notamment se sont très fortement appréciés?
Oui, en fait, la Banque centrale japonaise, elle s'inquiète de l'inflation qui augmente au Japon, et notamment à cause de la faiblesse du yen. Donc ça importe de l'inflation, puisque le Japon est très dépendant en fait des importations, et est très dépendant aussi de la hausse des prix de l'énergie avec ce qui se passe depuis 2 mois. Donc on a effectivement une inflation importée, un yen qui est déprécié, puisque les différentiels de taux entre les États-Unis et la zone japonaise est assez marquée en quelque part, même si on a eu une hausse des taux du yen, puisqu'on est passé d'un monde négatif hein, à 0,75% de rémunération sur le yen. Mais par contre, on a toujours ce différentiel qui fait qu'on a un effet carry trade sur la paire, et la paire USD-JPY et bien à des niveaux un petit peu records ces derniers temps, notamment fin avril, on était avec une incursion au-delà des 160, et donc ça a forcé la banque centrale japonaise à intervenir pour faire baisser cette pression en vendant massivement des dollars. On parle de l'équivalent de 35 milliards de dollars de vendus le 30 avril dernier pour conserver ce seuil et faire repasser USD-JPY sous les 160. Ce qui a eu lieu, hein, évidemment, puisqu'on est instantanément, en quelques heures, en fait, repassé de un peu plus de 160 à du 155-156. Donc on a perdu 5 figures en quelques heures, ce qui est énorme. Et c'est la plus grosse intervention récente depuis l'été 2024. À l'été 2024, on a eu une intervention massive pour les mêmes raisons, hein, pour défendre cette faiblesse du yen, enfin pour contrer cette faiblesse du yen en fait, et donc défendre la résistance au-delà des 160 sur USD-JPY. Et à l'époque, on était passé donc de 160 en 2024 vers les 140 au bout du bout. Donc on a perdu 20 figures. Là, on en est loin, ce n'est que le début, et c'est à surveiller, puisque depuis le 30 avril, très clairement, la BOJ intervient massivement.
Bon, et c'est clair que c'est ça qui provoque cette volatilité sur les taux. Et on a vu de fortes tensions là ces derniers jours. Là, évidemment, une détente avec l'impression que sur le plan géopolitique, ça se calme un petit peu. Malgré tout, c'est la même problématique que le pétrole. C'est-à-dire qu'on peut avoir des forts pics et des fortes détentes. Simplement, en filigrane, la tendance, elle reste haussière et elle reste inquiétante parce que c'est sur le long terme que ça se joue.
Oui, c'est quelque chose qui effectivement intervient en intraday, mais en réalité c'est un mouvement de fond que la BOJ va essayer de maintenir. Donc on a typiquement, on a eu d'ailleurs une coordination en quelque part entre le ministère des Finances japonais et la BOJ pour aller dans le même sens avec avant l'intervention réelle des warnings en fait, des avertissements notamment sur tous les carry traders et tous les spéculateurs qui voulaient faire progresser le dollar américain au détriment du yen. Et c'est ce qui se passe en prenant un revers finalement de manière forte et de manière massive sur ces niveaux. On a effectivement une tentative de contrer les vents dominants, mais malgré tout, le marché continue de tenter de faire poursuivre cette hausse USD-JPY. Alors au moment où on parle, on est quand même au niveau, on est sur des niveaux un peu plus faibles, hein, autour des 156, et on est passé ce matin vers 6h30 du matin, 6h25 exactement, avec une petite intervention de suivi de la BOJ, pour passer de quasiment 158 à du 155, donc trois figures en une demi-heure. Donc c'était vraiment violent ce matin, et c'est dans la lignée de ce qui s'est passé le 30 avril dernier, et on a ça à peu près tous les jours sur chaque séance. Donc c'est un combat entre la Bank of Japan et le marché.
Bon, là va vraiment falloir suivre ça de près, parce que ça peut être justement le truc en filigrane dont personne ne parle et qui finalement drive la tendance des marchés, alors notamment sur l'obligataire, l'échange, puis évidemment avec des répercussions sur le marché actions. Benoît Fernandez-Rio, au milieu de tout ça, on a un euro-dollar qui grimpe, hein, on est à 1,1774. Alors c'est une réaction logique étant donné que on a une baisse des taux, et notamment des taux américains, donc une baisse de la rémunération de la monnaie, donc l'euro retrouve de l'attrait. Est-ce que cet euro fort pourrait pas commencer finalement à nous poser problème?
Alors, l'euro est fort par rapport à d'où on vient, c'est-à-dire on était à quasiment la parité mathématique, et effectivement, depuis l'arrivée de l'administration Trump, on est revenu sur des niveaux que moi je qualifie de niveau de parité de pouvoir d'achat. Donc on est sur autour des 1,17, 1,18, et effectivement ce sont des niveaux où en gros, toutes choses étant égales par ailleurs, la zone économique américaine et la zone euro sont équilibrées. Donc ça veut dire que finalement on est revenu à la moyenne long terme, et on est revenu d'ailleurs sur les niveaux de lancement de l'euro il y a plus de deux décennies désormais. Donc on n'est pas sur un excès à long terme. Par contre, effectivement, c'est un mouvement quand on zoome un petit peu, eh bien qui fait que l'euro s'apprécie effectivement au détriment du dollar américain, mais c'est aussi souhaité par l'administration Trump effectivement, et c'est même souhaité que cela se poursuive idéalement, et peut-être que ça va se poursuivre avec Kevin Warsh qui va prendre bientôt les rênes de la réserve fédérale, et peut-être Christine Lagarde qui va en tout cas verbalement et peut-être dans les actions, agir pour essayer de contrer l'inflation en zone euro, sachant que la dernière fois, on lui avait reproché à Christine Lagarde, en tout cas à la BCE, d'être un petit peu en retard. Donc là, elle veut essayer de prendre le marché de cours en anticipant quelque part. Et ça, c'est bénéfique pour l'euro, effectivement.
Merci beaucoup Benoît Fernandez-Rioux, spécialiste taux échange, mais effectivement à cette situation qui continue à être compliquée du côté du Japon, qui provoque en contre-coup des choses sur les taux, et qui pourrait même avoir une importance sur ce que Donald Trump pourrait décider du point de vue géopolitique, parce qu'on sait que les taux d'intérêt, c'est vraiment ce qui le calme généralement, et avoir un 30 ans à 5%, ça reste quand même un garde-fou important. Merci beaucoup. Tout de suite, on passe au coffre-fort, enfin non, quelques secondes, on va faire un grand état des lieux du crowdfunding. À tout de suite.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Le crowdfunding, vous vous souvenez, hein, il y a encore 2-3 ans, on en parlait matin, midi et soir. Bon, on n'en parle plus trop en ce moment. C'est devenu quelque chose de pointu, mais quelque chose d'intéressant. Et encore une fois, quelque chose sur lequel il faut être sélectif. Et sur lequel il y a des nouvelles dynamiques qui se dégagent. Alors, bien entendu, nos amis de Carré Partners sont là. Wendy Souvanara.
Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et bonjour Antoine. Ring,
bonjour. Très content de vous avoir là. Alors, j'ai titré ça « Crowdfunding, est-on dans une sorte de grande panne ?» On va peut-être commencer par un cas emblématique qui s'appelle « October ». Et qui est un petit peu symptomatique de tout ce qui est en train de se passer du côté du crowdfunding à ce moment. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé sur October?
Ouais, avec plaisir. Alors, October, on s'en rappelle, hein, c'est le dernier gros acteur européen du crowdlending. Donc, tout le monde connaît son nom. Malheureusement, c'est la fin. Ça vient d'être racheté. Hein, ça fait suite à WeSeed, hein, il y a quelques mois, qui annonce aussi un redressement judiciaire. Ouais. Bon, pour se remettre un petit peu dans le contexte, hein, October, c'était 1,2 milliard de collectés sur plus de 10 ans à travers l'Europe, hein, qui est du prêt finalement au TP. PME, c'est 44 000 investisseurs.
Ouais, c'était le Lendix d'Olivier Gouin au départ.
Absolument, voilà, exactement, tout à fait, ouais, je vais te le rappeler. Et donc finalement, la mort d'October, ça nous dit beaucoup du crowdfunding de manière générale, et ça vient directement se rattacher au dernier baromètre qu'on avait eu finalement de Mazars France FinTech 2025, qui nous disait que malheureusement, le millésime 2025 était assez catastrophique. Alors, crowdlending, on peut se parler un peu plus largement du crowdfunding immobilier même d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Et là, on voit que les résultats, j'ai pas d'autres mots, sont assez catastrophiques. Alors déjà, on a un crowdfunding qui dévisse complètement en 3 ans de près de 50%. On passe de 1600 à 845 millions de collectes sur l'année passée. Mais surtout, on se parle de 2/3 des portefeuilles qui sont en difficulté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en difficulté? Soit ils sont en retard, soit ils sont sous procédure collective. On va le dire dans des mots très simples, les promesses qui avaient été faites aux particuliers d'un rendement quasiment garanti, puisqu'on était sur des prêts, ne sont absolument pas tenues. Et aujourd'hui, on est confronté à la réalité, finalement.
Bon, Alexandre, au-delà d'October, quel est le tour d'horizon de ce qui se passe du côté du crowdfunding? Est-ce qu'on n'est pas finalement dans la queue de typhon de tout un truc dont on a parlé depuis des semaines, qui s'appelle le crédit privé? Alors, aux États-Unis, hein, bien sûr, mais toute une sorte de méfiance structurelle qui est en train de s'organiser autour de segments de marché qui se ressemblent un petit peu et qui semblent désintéresser les investisseurs maintenant.
Alors, il y a, oui, entre autres, effectivement, la dette privée, le crédit privé, c'est un segment qui a été présenté, ou qu'en tout cas que le particulier a compris comme étant quasiment garanti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vous dit, vous allez avoir un taux qui est un coupon qui arrive tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Mmh. Et donc, ça donne le sentiment qu'il n'y a pas de fluctuation, qu'il n'y a pas d'aléa. Mmh. Et ça a été exactement le cas sur le crowdfunding immobilier. C'était particulièrement emblématique parce que je m'en souviens à l'époque, c'était présenté comme avec un taux de défaut zéro. Ouais. Ce qui a été vrai jusqu'à ce que le marché immobilier explose avec la remontée des taux, hausse des matières premières, l'allongement des délais de vente ont fait éclater ce marché qui reposait sur des promoteurs qui utilisaient le crowdfunding immo pour financer les fonds propres en complément de la dette bancaire. Alors les banquiers, ils se sont remboursés. Évidemment, ce qui est passé à la casse, c'est les fonds propres. Et les fonds propres, en fait, étaient apportés par des prêteurs particuliers qui jouaient ce rôle de financeur en fonds propres, mais pensant qu'ils avaient finalement ce rendement garanti. Et ça, c'est pareil sur le sujet de la dette privée. On a présenté des portefeuilles très diversifiés, donc avec un risque qui était étalé. Mais à un moment, quand l'intégralité de l'économie souffre, quand tous les taux remontent, vous avez à la fois une contraction de l'écart entre un taux sans risque et ce taux qui en réalité est avec risque, même s'il avait été mal compris.
Ouais, bien sûr.
Et puis, des casses, des entreprises, les fameux sous-jacents qui tombent. Ça a été le cas. Ça rappelle la crise des subprimes, évidemment. C'est le même cas d'usage. Voilà. Et après, si on prend le crowdfunding, de manière plus générale, il y a cette crise globale sur l'investissement dans les TPE PME qui ont du mal à résister dans un marché qui est en train, dans l'investissement, de partir vers les plus gros. L'essentiel de la valeur et des volumes d'investissement est en train d'être capté par une poignée d'acteurs.
Ouais, et quand on veut investir dans l'économie réelle comme ça, est-ce qu'il y a des alternatives à l'heure actuelle, peut-être des choses un petit peu plus sécurisées, un petit peu moins risquées, un petit peu plus encadrées? Ouais. Moi, je me souviens quand j'étais à Euronext, ils faisaient tout un grand cas aussi de tout ce qui est pré-introduction en bourse.
Absolument.
Et là-dessus, il y a du business, il y a des investisseurs qui sont intéressés.
Ouais, vous faites bien de le dire, parce qu'effectivement, si je reviens deux minutes sur effectivement capital risque, capital innovation, justement, vous avez cité Euronext. Les IPO sont complètement en berne, parce qu'effectivement, on est sur deux boîtes qui n'ont pas du tout délivré. Maintenant, la valeur se concentre avant introduction en bourse. Alors, on se rappelle les chiffres, Google, Facebook, ils étaient restés privés en moyenne 5-6 ans. Aujourd'hui, les grands noms qu'on entend régulièrement, maintenant SpaceX, Anthropic, OpenAI, qui vont s'introduire bientôt, on se parle de plutôt 10-15 ans. Donc, la captation de valeur, elle est dans ce 18-24 mois avant l'introduction en bourse, où on peut aller chercher des rendements mesurés et aller, on va dire, dérisquer au maximum, puisque ce sont des boîtes qui ont déjà les fondamentaux solides. Maintenant, attention, et j'insiste vraiment, on n'investit pas, c'est un marché qui est complexe, le late stage, comme on l'appelle, le pré-IPO. Oui. Et donc, c'est important de rappeler à nos investisseurs, moi je le dis quotidiennement, quand vous investissez, quel que soit le véhicule, le club ou la maison, posez des questions. La règle numéro un, c'est de s'intéresser à la rigueur institutionnelle, avant de s'intéresser uniquement au prix, qui est en général le réflexe des particuliers. Quelle est la rigueur institutionnelle derrière? Quelle est la chaîne de détention juridique? Y a-t-il des audits qui sont réalisés en Europe, mais également aux États-Unis si vous investissez dans une cible américaine? Ensuite, allez regarder évidemment le ratio acheteur-vendeur. OpenAI, un acheteur, 5 vendeurs, vous comprenez qu'on se pose des questions sur la valeur.
C'est totalement.
C'est évident. Ouais. Anthropique, l'inverse, c'est une pénurie. Donc l'idée, c'est d'aller chercher un équilibre de marché où on va avoir le bon prix, la bonne valorisation et aller capter cette valeur encore une fois. Et évidemment, on ne cessera jamais de le rappeler, la diversification. Même quand on investit dans le late stage, on se pose la question de diversifier sur plusieurs licornes pour aller encore une fois toujours se dérisquer et aller répartir son portefeuille quand bien même on est sur des actifs qui aujourd'hui délivrent historiquement beaucoup de valeur.
Ouais, diversifier, puis aussi décrypter et vraiment... aussi bien du côté de la technique financière que du business model, mettre les mains dans le cambouis et pas avoir peur d'être proche de son objet.
Je dirais, il faut se rappeler, c'est les fondamentaux de l'investissement, il faut y revenir. Il ne faut pas investir juste dans le nom, parce que effectivement tout le monde s'excite, on le voit chez Carré en pré-IPO sur Anthropic. Le problème, c'est qu'Anthropic, c'est passé quand même en 14 mois de 60 milliards de valo à plus de... Là, ça se revend sur les marchés aujourd'hui à entre 1000 et 1200 milliards. Alors que l'introduction en bourse, on se parle de 900 milliards, que la valorisation du dernier tour institutionnel en février était à 380 milliards. Donc vous comprenez qu'en fait... cette espèce de FOMO des investisseurs peut créer un effet de bulle. Là, on peut s'en parler.
Et là, on y est.
Et là, on se retrouve à acheter trop cher. Mmh. Et acheter trop cher, ça veut dire potentiellement perdre sur la sortie. Ce ratio, si à l'entrée, il est déséquilibré, à la sortie, il risque de l'être, mais dans le sens inverse.
Ouais, c'est ça, exactement. Écoutez, merci d'avoir fait le point là-dessus. C'était vraiment très intéressant. C'est vrai qu'il y a énormément d'actu, notamment du côté des États-Unis. Mais voilà, déjà le crowdfunding, et puis ensuite, regardez le marché des prêts IPO, Carré Partners, Alexandre Leng et Wendy Souvanarat. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve à 15h30 aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse. Et d'ici là, Marie-Cœur de Roy, les experts IMO, c'est tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.